Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique, que vous pouvez également écouter en podcast. Pour cette édition en partenariat avec la revue Questions internationales et son numéro intitulé Allemagne, changement d'époque, regard sur le pays le plus peuplé de l'Union européenne, avec près de 85 millions d'habitants qui se trouvent depuis sa réunification en 1990 et les élargissements de l'Union européenne 10 ans plus tard au cœur, voire au centre de l'Europe. Devenue le modèle de l'export nation innovante et agile, l'Allemagne occupe le troisième rang mondial des puissances économiques derrière les États-Unis et la Chine et devant le Japon, avec un PIB par habitant légèrement plus élevé que la moyenne de l'Union européenne. Mais le retour de la guerre sur le continent européen a provoqué un électrochoc. Le modèle d'une Allemagne nain politique et géant économique installée dans un pacifisme de principe à l'abri du parapluie américain a vacillé. Une mue est en train de s'opérer. L'augmentation du budget de la défense ou la définition d'une stratégie de sécurité nationale témoigne de la volonté de Berlin d'inaugurer une ère nouvelle. Les élections anticipées du 23 février prochain sont un scrutin d'importance pour les choix à venir du pays. Le favori de ce rendez-vous politique est Friedrich Merz, candidat de l'Union chrétienne démocrate, la CDU. Sa principale adversaire est la candidate du parti d'extrême droite, l'AFD, qui fait figure de deuxième formation la plus populaire de ces élections. Des élections qui ont été précédées de plusieurs actes de violence impliquant des étrangers. Le scrutin s'inscrit dans un climat de tension. Regard avec nos invités. Claire de Mesmet, chercheuse associée au centre Marc Bloch à Berlin et professeure à la chaire Alfred Grosser de Sciences Po. Bienvenue.
Merci beaucoup, bonjour.
Sabine Janssen, professeure au CNAM, Centre National des Arts et Métiers, co-rédactrice en chef de la revue Questions Internationales, bienvenue.
Bonjour.
Et Hans Stark, par téléphone, professeur de civilisation allemande contemporaine à Sorbonne Université, conseiller pour les relations franco-allemandes de Alifri, bonjour.
Bonjour.
Le coprésident de l'AFD, le parti allemand d'extrême droite, était présent à la cérémonie d'inauguration de la présidence Trump le 20 janvier dernier à Washington. L'AFD a extrêmement bonne presse ces jours-ci aux États-Unis. On a même entendu Elon Musk souhaiter ouvertement sa victoire aux élections allemandes du 23 février. Sur le terrain, la campagne pour ces élections fédérales a connu des moments de rupture, comme le vote par la CDU-CSU d'une motion sur l'immigration. C'était le 29 janvier dernier. Une loi très répressive en matière d'immigration qui reprend les arguments de l'AFD et qui a mis fin à ce qu'on appelle le cordon sanitaire, jusqu'ici en vigueur en Allemagne, un pare-feu à l'égard de l'extrême droite qui prévalait depuis l'après-guerre. Un tabou a donc été levé. Le passage de cette loi a nécessité une collaboration de fait avec l'AFD. Hans Stark, pourquoi cette initiative si près des élections ?
Bon, d'abord, je pense que le cordon sanitaire existe toujours, hein, cette alliance. Il n'y a pas d'alliance entre la CDU et l'AFD pour le moment, peut-être. Ce que la CDU a fait, c'est le NFP l'a fait aussi avec le Rassemblement National lorsqu'il a voté contre le gouvernement Barnier. Je ferme la parenthèse. Alors, pourquoi est-ce que la CDU a fait initié ce projet de loi? C'est à la suite d'un attentat qui a été commis à Aschaffenburg dont un enfant est mort, un enfant de 2 ans. Et c'est peut-être la goutte qui a fait quelque part déborder le vase. Et la CDU, enfin en tout cas M. Merz, émotionnellement très affecté par cet attentat, avait le sentiment qu'il devait agir et qu'on ne pouvait pas se limiter une fois de plus à déposer des germes de fleurs, qu'il fallait envoyer un message fort. Et il a pris le risque que l'AFD vote la même motion, ce que l'AFD a fait. Et il s'est trouvé en effet dans de très mauvais draps. Il a été critiqué au sein de son parti, pas par l'ensemble, mais il y a quand même des critiques, et surtout au niveau de l'opinion publique. Encore une fois, ce n'est pas une alliance, et comme vous l'avez déjà dit dans votre introduction, la CDU ne va pas monter une coalition avec l'AFD.
Alors, tout de même, Claire de Mesmet, ce vote a semé le trouble parmi les électeurs. La question intéressante est de voir si la CDU paye les pots cassés, d'une certaine manière, hein, de cette décision. Et pour ce qui est du cordon sanitaire, il y a eu examiné au Bundestag l'interdiction de l'AFD suite à cette loi. Donc, est-ce qu'elle aura des chances d'aboutir un jour, Claire de Mesmet?
Alors là, il y a plusieurs questions en une. Oui. Je ne sais pas trop par laquelle commencer. J'aimerais revenir sur la question du vote du projet de loi. En fait, il y a eu deux choses. Il y a eu la mise au vote d'une motion non contraignante. Ça, c'est la première chose. Où l'AFD a soutenu la CDU, la proposition de motion de la CDU. Et ensuite, le projet de loi qui n'a pas réussi à passer la barre. Cette motion non contraignante, il n'y avait aucune obligation pour la CDU de la proposer. Aucune obligation, parce qu'elle n'engage rien. Elle ne change rien, de toute façon, à la politique gouvernementale. Donc c'était uniquement un signal, ça relevait uniquement, ou ça relève uniquement de la symbolique pour s'afficher sur les questions migratoires. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Hans Stark l'a dit, on a un contexte, l'attentat, bien sûr. Mais il y a aussi quelque chose de plus large, c'est l'AFD qui est dans le Donc l'alternative pour l'Allemagne, parti d'extrême droite, avec des éléments néo-nazis, qui est dans le champ politique allemand depuis maintenant plusieurs années, qui est entré au Bundestag en 2017, qui est là, qui s'est installé, qui est aujourd'hui à plus de 20% des voix dans les sondages, donc c'est un parti qui compte, c'est un parti qui est avant le parti social-démocrate.
C'est ça, deuxième parti d'Allemagne.
Exactement. Et ça, c'est nouveau. Pour un pays avec l'histoire qu'a l'Allemagne, c'est vraiment nouveau. Et l'AFD, justement, qui est dans l'opposition, qui restera dans l'opposition en principe dans les prochaines années, fait un travail de mise à l'agenda. Sur les questions migratoires, sur les questions de politique d'asile, l'AFD qui a un agenda pro-russe également, et d'ailleurs c'est assez, on est ici dans la schizophrénie, puisqu'en même temps elle est soutenue par Elon Musk, vous l'avez dit, on pourra y revenir. Donc, ce sujet migration, politique d'asile, peut-être encore plus important, est central aujourd'hui dans le champ public, dans le champ politique allemand de la campagne. Et dernier mot sur justement la tentative ou le positionnement de Friedrich Merz de la CDU sur cette question. En fait, la CDU et Merz en particulier étaient attendus sur les questions économiques. Il a cette image-là d'expertise économique, il est mieux positionné, en tout cas dans les perceptions, que d'autres partis politiques. Et il a pris ce risque, justement, d'aller sur un autre terrain, et là il s'est mis en danger. Mais en réalité, dans les sondages, ça ne change pas grand-chose.
Toujours à peu près 30%, 31% des intentions de vote et 20% pour l'AFD, vous l'avez dit. Il est vrai, Sabine Janssen, que l'immigration, ça a été un grand sujet de cette campagne en Allemagne. L'Allemagne qui pourtant en a bien besoin de l'immigration. Alors on voit la CDU, qui est aux portes du pouvoir à nouveau, entendre instaurer un contrôle permanent aux frontières, restreindre le regroupement familial, revenir sur la réduction du délai de naturalisation de 8 à 5 ans décidé par le gouvernement de Olaf Scholz. Et le leader conservateur sait qu'il a avec lui la majorité des Allemands.
Oui, alors j'ai envie de dire bienvenue au club, parce que pendant très longtemps les Allemands ont regardé les Français un peu, je dirais, avec consternation, compte tenu des résultats du Front National devenu Rassemblement National. Et c'est vrai que depuis 2013, l'AFD, et a fortiori 2017, s'impose véritablement sur la scène allemande. Alors, avec notamment une présence très forte dans les nouveaux Länder, l'ancienne Allemagne de l'Est, et on l'a vu en particulier au mois de septembre avec les élections en Thuringe et en Saxe, où l'AFD a fait plus de 30% des voix. Donc, la question que vous posiez du cordon sanitaire et des alliances, elle va aussi se poser au niveau régional et a fortiori de plus en plus, parce que il va bien falloir compter avec cette force politique. Alors, sur la question migratoire, on a parlé, il y a eu effectivement un attentat qui a beaucoup frappé les esprits à la fin de l'année, au début de l'année, mais il y en a eu aussi cet été. Et il est clair que cette question migratoire qui n'était pas première, c'est vrai que c'était plutôt l'économie qui dominait les préoccupations allemandes. On a bien vu dans les derniers sondages que la question de l'immigration était, je crois que dans les derniers sondages, c'était 37% de préoccupations, ça a fait un bond. Et ça explique que la CDU s'en soit emparée. Elle ne pouvait pas effectivement laisser de côté cette question, elle ne pouvait pas la laisser à Olaf Scholz, elle ne pouvait pas la laisser non plus à l'AFD. Donc là, on a une fixation sur cette question, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça n'a pas vraiment modifié pour le moment, en tout cas dans les sondages, les rapports de force.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Alors, il y a beaucoup de choses avec les questions d'immigration. La première qui me vient, Hans Stark, c'est presque vous demander ce que Monsieur Merz va faire. Ça va être très différent de ce qu'Angela Merkel, elle avait été beaucoup critiquée pour ça, pour avoir accueilli plus d'un million d'étrangers en Allemagne. Donc ce sera intéressant de vous entendre là-dessus. Peut-être on reste pour l'instant sur l'AFD, donc le parti d'extrême droite. L'AFD, dont beaucoup de leaders ou beaucoup de militants, ont, pour faire carrière, sont allés travailler en Europe, enfin en Allemagne de l'Est, ou anciennement de l'Est, avec cette problématique en termes de territoire, une fracture territoriale qui est très forte aujourd'hui encore entre l'Est et l'Ouest en Allemagne. Et puis, autre question par rapport à l'AFD, le soutien d'Elon Musk, l'Américain, pour ce parti d'extrême droite, votre regard à vous, Hans Stark?
Alors, là, deux questions. Alors, pour l'Allemagne de l'Est, il faut constater que il y avait un fond de xénophobie très virulent, très violent, mais dès la chute du mur de Berlin. Mm. Et nous avons eu des attaques contre des foyers d'asile au tout début des années 1990, et puis aussi des tabous qui ont été brisés en termes d'expression publique dès le début des années 90 également, et puis des quartiers entiers dans des villes, dans des villages qui ont été envahis, enfin, si on peut dire, par des groupuscules d'extrême droite qui font régner leur loi et leur terreur, en quelque sorte. Hein. Donc l'Allemagne de l'Est est de ce point de vue-là, non pas globalement parlant, mais parce qu'il y a aussi des quartiers de gauche, notamment à Dresde et à Leipzig, donc l'Allemagne de l'Est n'est pas que d'extrême droite, mais il y a aujourd'hui l'AFD est devenu le premier parti dans les nouveaux Länder et il va probablement obtenir tous les mandats directs donc lors des élections du 23 février, ce qui est en soi déjà un peu inquiétant. En effet, évidemment, lorsque on a vu du côté de l'extrême droite ouest-allemande les possibilités de développement qui s'offraient à elle à l'Est, ils s'y sont allés, ils s'y sont installés, et donc le personnage le plus illustre de cela, c'est Björn Höcke, qui est le chef de l'AFD en Thuringe, qui est l'homme fort de l'AFD et l'un des plus durs aussi, et c'est un enseignant d'Allemagne de l'Ouest qui a fait sa carrière à l'Est. Donc, en quelque sorte, l'Allemagne de l'Est a été peut-être colonisée, si j'ose dire, par des groupuscules d'extrême droite venant de la RFA, qui en ont profité des libertés qu'ils avaient en Allemagne de l'Est. Alors, pour Musk, difficile à dire à quel point le personnage lui-même est déjà d'extrême droite, mais en tout cas, visiblement, il est dans la même mouvance que Steve Bannon. C'est quand même un populisme d'extrême droite qui est aujourd'hui dominant aux États-Unis. Mais je pense surtout ce que Musk a en vue, c'est l'Union européenne qui le dérange avec ses régulations, avec ses obstacles qu'il dresse sur la route du développement de ses entreprises. Et donc, il veut faire tomber l'Union européenne. Et l'AFD est un moyen d'y parvenir parce que l'AFD préconise, enfin demande, la sortie de l'Allemagne de la zone euro et si possible même de l'Union européenne. Donc il propose quand même un Dexit et donc c'est vraiment le levier idéal pour Musk pour mettre un terme à l'existence de l'Union européenne, c'est soutenir l'AFD.
Claire de Mesmer, vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à Elon Musk, plus généralement ce que vient de dire Hans Stark?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Hans Stark sur l'image ou le rôle de cheval de Troie qui est censé jouer l'AFD ou l'Allemagne en général dans la stratégie muskienne ou trumpienne. Ce qui s'est passé avec le salut nazi d'Elon Musk, alors je sais qu'il y a une discussion là-dessus, mais moi ça me paraît relativement clair, avec encore une fois l'histoire de l'Allemagne, quand on pense, voilà, la libération, 80 ans de libération des camps, Auschwitz, donc cette histoire qui est très Lourdes qui a marqué l'ensemble du développement de l'Allemagne depuis sa création à la suite de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas anodin. On peut, si on compare la France, l'Allemagne, d'autres pays, on peut parler de normalisation. Non, c'est pas une normalisation parce que l'Allemagne n'a pas une histoire normale. Donc, ce qui se passe là, c'est, moi, je trouve que c'est vraiment très, très, très marquant. Deuxième point sur la question migratoire. L'Allemagne a un problème de main-d'œuvre. Comme d'autres États européens, on est face à une transition démographique. Enfin, on peut aussi parler d'un vieillissement, pour dire les choses clairement. L'Allemagne a besoin de main-d'œuvre immigrée. Et aujourd'hui, dans le discours, il y a cette différenciation qui est aussi relativement classique entre les bons immigrés, l'immigration légale qui va arriver sur le marché du travail, qui va permettre de dynamiser le marché du travail et le système économique, et de l'autre, les migrants dont on ne veut pas, notamment les demandeurs d'asile. Mais ça, c'est la théorie. En réalité, tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui, lorsque notamment la CDU joue avec le feu, avec ces images, eh bien ça nourrit un climat. Ça nourrit un climat anti-migrant qui se retrouve ensuite dans le vote d'extrême droite. Et ça a aussi un impact sur la migration du travail. Les pays occidentaux sont face à une concurrence pour les migrants du travail. Donc aujourd'hui, déjà, on a dans la discussion, on voit très bien des migrants qui disent « je ne me sens pas bienvenue, je quitte cette région parce que l'AFD est trop présente ou je quitte le pays ». Donc ça aussi, c'est une question qui à moyen terme, enfin à court et moyen terme, doit aussi se poser. Là non plus, c'est pas anodin, la manière dont on parle justement de ce sujet aujourd'hui dans le champ politique allemand. Et toute dernière question, Hans Stark disait « l'Est de l'Allemagne n'est pas uniquement d'extrême droite ». Oui, évidemment, ça c'est important de le dire. Mais j'ajouterais, l'extrême droite n'est pas uniquement à l'Est. Elle est aussi à l'Ouest. Elle s'implante dans des communes, dans des régions où l'économie va plutôt bien. Donc, je pense qu'il faut faire attention aussi dans cette présentation des choses. On est face à un phénomène qui est relativement... On est face à une véritable dynamique qui concerne l'Allemagne dans son ensemble.
Alors, dynamique que vous qualifieriez comment? Parce que on précise que vous venez de préciser qu'il y a des secteurs économiques qui vont bien. Ce qu'on lit, ce que j'ai lu dans le cadre de la préparation de cette émission, c'est une Allemagne dont la situation économique est compliquée. Le pays connaît sa troisième année consécutive de récession. On l'évoquait à propos des emplois. Il y a 700 000 emplois vacants et pourtant des secteurs industriels qui licencie, je ne vais pas dire à tout va, mais de façon importante. Comment expliquer la situation et quels sont finalement les défis pour l'économie allemande, Sabine Janssen?
On est face à une véritable crise économique. Alors, juste, je voudrais rajouter sur la question migratoire le fait que quand même l'Allemagne a été le pays qui a accueilli le plus de migrants en 2015 et même entre 2015 et 2023. Le nombre de personnes accueillies est considérable.
Plus d'un million.
Oui, plus d'un million. Et donc, beaucoup plus qu'aucun autre pays. Et donc, il y a eu vraiment une hospitalité de la part des Allemands. Il faut bien reconnaître qu'en France, ça aurait été impossible. Et il y a quand même beaucoup aussi de contre-manifestations qui montrent que tous les Allemands ne sont pas non plus pro-AFD. Il faut malgré tout y insister. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une crise économique, notamment pour des secteurs majeurs comme celui d'automobile. La Volkswagen a annoncé la fermeture possible de 3 usines. Il y a aussi une crise dans l'industrie chimique. C'est quand même un peu les deux mamelles de l'industrie allemande. Et de ce fait, c'est vrai que ça... Alors, il y a aussi un contexte international, il faut le dire, notamment énergétique, puisque le modèle traditionnel allemand qui reposait sur... le commerce international appuyé sur les exportations vers la Chine, une énergie à bon marché provenant de Russie, c'est en train de se déliter. La croissance de la Chine a diminué. L'Allemagne, ça fait deux années de suite qu'elle a 0% de croissance. Donc, on est quand même là face à une économie atone dans un contexte mondiale difficile. Alors, si on ajoute à ça, si je peux dire, on dit d'habitude rien de nouveau à l'Ouest.
On n'ajoute rien, c'est si gentil. Je vous redonnerai la parole dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve avec Claire de Mesmet et Anne Stark après le journal. À tout de suite.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Toutes vos questions en direct sur l'activité physique et la santé.
Mardi.
Quand l'écriture guérit, un refuge, une thérapie.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est 20h à Paris, 19h en temps universel.
Charlotte Drouin.
Bonsoir à toutes et à tous. Depuis Jérusalem, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le Premier ministre israélien ont affiché un front uni contre le Hamas et l'Iran. Une visite qui coïncide avec l'arrivée d'une cargaison d'armes lourdes américaines en Israël. Cargaison débloquée par Donald Trump. Ces tensions entre le Hezbollah et les nouvelles autorités politiques libanaises. Des tensions sur fond d'interdiction d'atterrir pour des avions iraniens à l'aéroport de Beyrouth. Explication à suivre. Face au changement climatique, planter des arbres en ville, l'idée est bonne, oui, mais encore faut-il bien sélectionner les espèces, notamment celles qui résistent aux fortes chaleurs. Et puis en France, une sculpture en bronze de Camille Claudel, vendue plus de 3 millions d'euros aux enchères. L'œuvre avait été retrouvée un peu par hasard dans un appartement parisien. 3 heures d'entretien et des déclarations conjointes qui montrent qu'Israël et les États-Unis partagent les mêmes positions concernant le Hamas, l'avenir de la bande de Gaza et l'Iran. Israël finira le travail contre la menace iranienne avec le soutien des États-Unis, a dit le Premier ministre israélien aux côtés du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Benjamin Netanyahou a aussi évoqué une stratégie commune avec Donald Trump sur l'avenir de la bande de Gaza, saluant à nouveau la proposition du président américain d'en prendre le contrôle et d'en chasser ses habitants, des déclarations totalement contraires au droit international. En tout cas, cette première visite du secrétaire d'État américain au Moyen-Orient intervient en même temps qu'une importante livraison d'armes lourdes américaines à Israël. Muriel Paradon.
Le ministère de la Défense israélien a envoyé à la presse internationale des images de nuit sur lesquelles on peut voir des conteneurs débarqués d'un bateau et chargés sur des camions. Cela se passe, nous dit-on, au port d'Ashdod, à une trentaine de kilomètres de la bande de Gaza. Ces cargaisons contiennent des bombes lourdes de type MK84, selon le ministère. Des bombes à fragmentation particulièrement destructrices, elles sont soupçonnées d'être à l'origine des dégâts considérables à Gaza et du nombre très élevé de victimes. Plus de 48 000 morts, en majorité des civils. Joe Biden avait suspendu la livraison des bombes lourdes, mais depuis, Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Il a approuvé début février une vente d'armes à Israël pour un montant de 7,4 milliards de dollars. En communiquant sur cette livraison aujourd'hui des bombes MK84, l'État hébreu envoie un double message. Le soutien des États-Unis est indéfectible et c'est un avertissement au Hamas, alors que la trêve reste fragile à Gaza. La guerre peut reprendre à tout moment.
Le Hamas qui accuse Israël d'avoir violé justement la trêve à Gaza ce dimanche après une frappe qui a tué 3 policiers dans l'enclave palestinienne. L'armée israélienne dit avoir ciblé des hommes armés. Le Hamas qui accuse aussi Israël de bloquer l'entrée de préfabriqués et d'équipements de déblaiement des décombres dans le territoire en ruine. L'armée israélienne dit aussi avoir mené aujourd'hui des frappes aériennes visant des sites du Hezbollah au Liban, des frappes dans l'est du pays, dans la vallée de la Beka, selon l'agence de presse libanaise. Le chef du mouvement chiite, Naïm Qassem, appelle ce soir le gouvernement libanais à refuser toute présence militaire israélienne sur le territoire libanais après la fin du retrait prévu le 18 février dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Naïm Qassem qui a aussi regretté la décision des autorités libanaises d'interdire l'atterrissage d'avions iraniens à l'aéroport de Beyrouth. Signe d'une crise de confiance entre le Hezbollah et les nouvelles autorités politiques, Paul Khalife.
Cheikh Naïm Hassem a déclaré ce dimanche que la décision a été prise par Beyrouth après une mise en garde américaine sur l'intention d'Israël de bombarder les pistes de l'aéroport en cas d'atterrissage d'avions iraniens. Le chef du Hezbollah a appelé le gouvernement à revenir sur cette mesure et à refuser, au nom de la souveraineté nationale, ce qu'il a appelé les dictats israélo-américains. Cette affaire a provoqué de fortes tensions sur le terrain depuis jeudi dernier. Samedi, le Hezbollah a publiquement demandé à ses partisans d'organiser un sit-in de protestation au cours duquel des incidents ont éclaté et des tirs de gaz lacrymogène ont été effectués par des soldats. Dans un communiqué publié ce dimanche, le parti chiite a pour la première fois critiqué l'armée libanaise et appelé à l'ouverture d'une enquête pour déterminer les responsabilités dans ce qu'il appelle la répression d'un rassemblement pacifique. Autre point de divergence entre le parti chiite et l'armée, la gestion de la question du retour des habitants du sud du Liban. Le Hezbollah a appelé les habitants à se rassembler pour entrer dans les villages encore occupés par Israël, alors que l'armée les exhorte à faire preuve de retenue et de patience. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Et alors que Donald Trump entend négocier en Europe la paix en Ukraine directement avec la Russie et sans les Européens, le président français Emmanuel Macron recevra demain à l'Élysée une dizaine de dirigeants européens, les chefs de gouvernement de l'Allemagne, du Royaume-Uni, d'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas et du Danemark. Le secrétaire général de l'OTAN sera aussi présent au menu des discussions, donc la sécurité européenne. Seuls les Ukrainiens peuvent décider d'arrêter de combattre, a indiqué aujourd'hui le chef de la diplomatie française. Ils n'arrêteront pas tant qu'ils ne seront pas sûrs que la paix qui leur est proposée sera durable et qu'ils n'auront pas de garantie de sécurité, a dit Jean-Noël Barrot. Face au changement climatique et aux vagues de chaleur de plus en plus nombreuses, de nombreuses villes à travers le monde s'engagent à planter des arbres. Les grandes agglomérations se fixent des objectifs. En volume uniquement, 30 000 arbres, 1 million d'arbres, mais dans une étude publiée sur le site The Conversation, trois chercheurs français et québécois indiquent qu'il n'y a pas que le nombre qui compte. D'autres paramètres doivent absolument être pris en compte pour que la mesure soit efficace, Lucille Lambert.
Si on regardait nos villes depuis le ciel, il faudrait qu'il y ait 40% de couverture végétale, 30%. En réalité, il n'y a pas de chiffre magique, car il faut prendre en compte la densité de population, de bâtiments et le climat propre à chaque cité. Les chercheurs invitent aussi les agglomérations à établir leur plan de verdissement en fonction des objectifs de réduction des températures qu'elles veulent obtenir. Surtout, il faut choisir les bons endroits. Un arbre grandit, survit aux aléas et se reproduit s'il a accès à la quantité d'eau, de lumière et d'azote qui convient à son espèce, trop ou trop peu, et la végétation ne rendra plus les services escomptés. En milieu urbain, ces paramètres peuvent changer radicalement en quelques dizaines de mètres. Et puis, il faut planter auprès de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, les citadins les plus pauvres, qui sont les plus exposés à la pollution et aux chaleurs extrêmes, sont les moins bien pourvus en végétation. Pour rendre vivables nos villes à long terme, diversifions aussi les essences d'arbres. Cela rend la forêt urbaine moins vulnérable aux maladies et aux insectes. Et choisissons des arbres qui pourront s'adapter au climat de 2050 et notamment à la sécheresse.
Précision signée Lucille Jambert. En France, un homme armé de sabre grièvement blessé par balle par un policier. Les faits se sont déroulés en fin d'après-midi près de Paris. L'individu a refusé de poser ses armes. Les policiers ont donc fait feu. Son pronostic vital est engagé. Une sculpture en bronze de Camille Claudel vendue 3 100 000 euros aujourd'hui aux enchères, intitulée L'âge mûr. Elle met en scène la tragédie amoureuse entre Claudel et le sculpteur Auguste Rodin. L'œuvre a été retrouvée par hasard en septembre dernier dans un appartement parisien inhabité depuis 15 ans, Marius Roland.
370 personnes étaient présentes sur place ce dimanche dans cette salle aux enchères du Conservatoire d'Orléans. Le bronze nommé L'âge mûr a finalement été octroyé à un mystérieux acquéreur au téléphone. 3 100 000 euros, soit 1 million de plus que les estimations hautes. Mais pour Mathieu Semon, commissaire priseur de la maison de vente Philocal, tout cela dépasse l'argent.
C'est énorme. Après, c'est la magie des enchères. On était sur un objet qui, à mes yeux, par l'émotion qu'il avait suscité, était quasiment inestimable. Quelle valeur donner à un objet d'art qui porte autant d'émotions?
C'est justement Mathieu Semon qui avait trouvé la sculpture en septembre 2024. Elle se trouvait dans un appartement dans le Noir depuis 15 ans, à côté de la Tour Eiffel à Paris. Il était venu faire l'inventaire des lieux avant de tomber des nues face à cet original caché dans la poussière sous un drap. En tant qu'intermédiaire, il se réjouit de la transmission de ce patrimoine.
Moi, je suis habitué à ce que, de toute façon, que cet objet ait un devenir dans un autre endroit, dans une autre collection, chez un autre propriétaire, qui continue sa vie à droite, à gauche, en France, à l'étranger. Il s'agit d'un marché sur lequel il y a de l'offre et de la demande.
C'est la deuxième vente la plus importante pour une œuvre de Camille Claudel. En 2013, une autre première version de la sculpture La Valse avait été adjugée à 5,2 millions d'euros à Londres.
En football, Nice a repris la troisième place au classement de Ligue 1 ce dimanche grâce à sa victoire au Havre 3-1.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Moussa Roubaskité, né sous un piano, titre de son autobiographie. L'histoire d'une surdouée de l'ex-URSS, devenue soliste internationale franco-lituanienne, amoureuse de Liszt et marraine de la maison Debussy en France. Un seul mot d'ordre, l'excellence.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Tout à l'heure, à partir de 23h10, temps universel et en podcast sur RFI.fr.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Regard sur l'Allemagne à une semaine des élections du 23 février. Nous retrouvons nos invités. Claire de Mesmet, chercheuse associée au centre Marc Bloch à Berlin et professeure à la chaire. Alfred Grosser de Sciences Po. Sabine Janssen, professeure au CNAM, le Centre National des Arts et Métiers, et co-rédactrice en chef de la revue Questions Internationales, dont un numéro récent est dédié à l'Allemagne sous le titre Allemagne, changement d'époque. Et Hans Stark, professeur de civilisation allemande contemporaine à Sorbonne Université et conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI. Sabine Janssen, je vous ai coupé la parole pour laisser le journal prendre place. Nous en étions aux questions économiques.
Oui, alors effectivement, je rappelais tout simplement que l'Allemagne, c'est elle qui compte, hein, qui a le plus de poids économique clairement en Europe. J'ai envie de dire, quand l'Allemagne va, tout va, enfin presque. Et aujourd'hui, on assiste quand même à une économie atone, à des difficultés réelles de l'industrie allemande. Je rappelais tout à l'heure le cas de l'automobile, le cas de la chimie, de Bayer en particulier, et le fait qu'on est dans un contexte mondial qui est tout de même assez négatif, que l'on se tourne vers la Chine qui a tiré la croissance mondiale, ou aujourd'hui, maintenant, si on regarde à l'ouest, si on regarde du côté de l'Amérique, c'est l'Amérique de Donald Trump, c'est donc celle du protectionnisme, des barrières douanières à venir très certainement, et tout ça va exacerber un certain nombre de problèmes, notamment sociaux. Le taux de pauvreté en Allemagne est important, il y a beaucoup d'interrogations sur le plan démographique. On rappelait tout à l'heure, Claire de Mesmer rappelait tout à l'heure, que la démographie allemande est aussi problématique, hein, avec moins de 1,5 de taux de fécondité. Bon, la France, c'est pas brillant, mais c'est encore pire en Allemagne, si je puis dire. Ce qui pose aussi la question qu'on a évoquée tout à l'heure de la migration. Donc, des difficultés économiques certaines pour l'Allemagne et qui ont un impact pour toute l'Europe. Ça, c'est vraiment une évidence.
Et en particulier, le voisin occidental de l'Allemagne, qu'est la France. Alors, effectivement, dans un rapport paru en mars 2024, le Conseil de l'Europe dénonçait les niveaux élevés de pauvreté et la montée des inégalités en Allemagne, avec donc une paupérisation croissante et la classe moyenne qui s'appauvrit. Il y aurait 17 millions d'Allemands dans la pauvreté pour une population totale de 85 millions d'habitants. Hans Stark, on va maintenant parler un peu de l'Allemagne et de sa place dans son environnement régional et dans le monde. On l'a vu, l'Allemagne plutôt absente de son rôle de leadership ces derniers mois. Friedrich Merz, qui a toutes les chances de l'emporter le 23 février prochain, qui est-il
Kabil, on sait qu'il a grandi dans l'ombre d'Helmut Kohl, qu'il est plutôt pro-européen, il a une connexion particulière avec les États-Unis et la sphère anglo-saxonne, il a eu une carrière transatlantique. Qu'est-ce que une victoire de la CDU signifierait pour la politique étrangère de l'Allemagne, Hans Stark?
Bon, je pense que d'abord, Friedrich Merz sera beaucoup plus proche des États-Unis et de la France en même temps que Merkel et Scholz. Le dialogue avec Trump sera plus facile pour lui que ça n'a été le cas pour Merkel, parce que Trump n'a pas voulu construire quelque chose avec Angela Merkel, parce que c'était une femme, ensuite parce que c'était un modèle anti-trumpiste, et donc Trump était extrêmement gêné par Merkel, qui représentait la personne de la liberté, de la dignité en Europe. Et puis aussi, Trump avait beaucoup critiqué la politique migratoire d'Angela Merkel, alors que Merz est plutôt pour la fermeté. Donc je pense que, de ce point de vue-là, ça ira peut-être mieux que durant les années 2016-2020. Au niveau des relations franco-allemandes, Merz a ce côté émotif que Scholz n'a pas du tout, et qui a quelque part manqué dans les relations franco-allemandes, qui sont aussi un peu faites de chair et os. Enfin, je dirais, c'est pas que des chiffres. Scholz n'a jamais réussi à monter quelque chose de constructif avec Macron, avec la France. Donc je pense qu'au contraire, on aura affaire à un homme politique beaucoup plus émotif, et ça plaira peut-être davantage aux Français aussi. Ceci dit, ce qu'on ne sait pas, c'est avec qui M. Merz va gouverner. Tout semble s'orienter vers une grande coalition, mais est-ce que la CDU, le SPD, est-ce qu'ils vont avoir le pouvoir? Est-ce qu'ils vont avoir la majorité des sièges? On n'en sait rien. Cela dépend de l'entrée au Bundestag ou pas de petits partis, notamment Die Linke et le BSW, qui sont autour de 5%. Si les deux entrent au Bundestag, il est peut-être possible que la grande coalition n'aura pas la majorité de sièges, ce qui nécessitera la formation d'une coalition avec du côté des chrétiens-démocrates, avec les Verts aussi, donc les Verts et les sociaux-démocrates. Et là, du coup, je pense que Merz sera vraiment coincé par l'aile droite de la CDU, qui va regretter une absence conservatrice ferme dans sa politique étrangère. Et la CDU sera obligée, dans ce cadre-là, de mener une politique très centriste, avec un ministre des Affaires étrangères qui sera peut-être du SPD, ministre de la Défense, qui sera peut-être SPD ouvert. En tout cas, ce ne sera pas la même CDU et ce ne sera pas le même Merz. Donc, attendons les résultats du 23 février pour vraiment savoir si Merz aura à peu près les coulées franches pour pouvoir gouverner ou pas.
Évidemment, c'était extrêmement important ce que vient de dire Hans Stark, Claire de Mesmer. On dit que l'Allemagne doit réinventer sa place sur l'échiquier européen.
L'Allemagne a toujours, depuis des décennies, l'Allemagne se définit comme pro-européenne, veut s'engager. Ça, je pense qu'il y a pas de malentendu sur cette question-là. La CDU est pro-européenne, le SPD l'est aussi, les Verts. Bon, on a une contestation au niveau des extrêmes du projet européen, une vraie contestation, notamment et en particulier à l'AFD, mais sinon on a une Allemagne pro-européenne. La question, c'est comment se définit ce leadership et surtout comment il s'exerce. Et en fait, depuis la grande coalition, depuis la dernière grande coalition, depuis quelques années, on a ce phénomène qu'on appelle à Bruxelles le German vote, le vote allemand. Le vote allemand, c'est pas quelque chose, ça n'a rien à voir avec le made in Germany. Le vote allemand, c'est les blocages sur la scène européenne, les blocages dans les processus de décision européens qui sont liés soit à une abstention de l'Allemagne, soit à son incapacité, à sa lenteur à s'entendre sur une politique, sur un positionnement.
Quels sujets essentiellement sont concernés par ces blocages, Claire de Mesmer?
Alors, un sujet, c'est par exemple la politique industrielle avec l'interdiction des moteurs thermiques. Donc la décision a été prise au niveau européen. Ça a été très compliqué. On sait faire un compromis sur la scène européenne, ça prend du temps. On négocie, ça prend beaucoup de temps. Et puis, l'Allemagne est revenue sur cette décision. Ça a été l'impulsion du ministre des Transports libéral, du FDP, qui là est sorti de la coalition. Non, ça ne va pas, donc on revient sur cette décision. Revenir sur une décision à partir du moment où elle a été prise au niveau européen, c'est également compliqué. C'est compliqué, surtout ça bloque les choses, pas seulement en Allemagne, mais aussi pour les autres. Et ce que disait Sabine tout à l'heure sur l'impact de l'économie allemande sur le reste de l'Europe. Oui, la situation économique allemande a une forte influence sur le reste de l'Europe. Et ça, c'est vrai aussi sur la politique. Une Allemagne qui elle-même est bloquée,
en interne, parce que le gouvernement fédéral ne s'entend pas, n'a pas une position commune, n'arrive pas à élaborer une position commune, eh bien, on a une influence politique sur le reste de l'Europe et une influence négative qui est une influence de blocage. Et ça, c'est la question, justement, de la coalition. Une coalition tripartite avec trois partis qui ont des visions très différentes des choses sur le plan de la politique énergétique, de l'économie, peut-être de la sécurité, de la défense. Eh bien, ça, ça nuit au leadership allemand et ça nuit, encore une fois, à la prise de décision au sein de l'UE.
Alors, Claire de Mesmer, et après ça, je vous passe la parole, Sabine Janssen. J'ai juste cette question pour relancer la thématique. Les élections de dimanche prochain, 23 février, étaient censées remédier à la situation d'instabilité de l'Allemagne. Vous êtes optimiste
Alors, les élections étaient censées apporter une clarification. En effet, étaient aussi censées apporter une majorité gouvernementale. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral n'a plus la majorité au Bundestag et, évidemment, compliqué de gouverner dans une telle situation. Donc, il y aura une nouvelle majorité. La question, c'est en effet laquelle
proportion est...
Exactement. Que disait Hans Schack sur les petits partis, c'est important, puisque ça change la constellation, les différents équilibres changent complètement. Donc aujourd'hui, il est absolument impossible de dire quelle coalition va sortir de cette élection. Et vous connaissez la discussion en Allemagne sur les palettes de couleurs. Une coalition noir-rouge, une coalition noir-verte, ou une coalition Kenya, en référence aux drapeaux des différents pays. Donc, bon, c'est assez amusant, mais ça montre surtout que pas tout est possible, mais différentes options sont sur la table ou seront sur la table à l'issue de cette élection.
Alors la question qui se pose effectivement, c'est aussi toujours en rapport à la place de l'Allemagne en Europe, et de savoir si Monsieur Merz, mais fonction de la coalition qui forcément devrait être créée à l'issue de ce scrutin, si Merz parviendra à marquer une politique européenne plus résolue à Berlin. Il y a un pays dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui. On parlait du reset de la relation de l'Allemagne avec la France. Il y a aussi la Pologne, Sabine Janssen.
Oui, j'aime beaucoup l'expression de Christian Hack qui dit que l'Allemagne est une puissance contre son gré. Ça me paraît tout à fait juste. C'est-à-dire que c'est une puissance de facto, mais elle n'assume pas ou elle assume difficilement ce rôle de puissance. Elle est, de ce point de vue-là, Olaf Scholz illustre assez bien ce que on peut voir comme un peu un défaut et que vous avez souligné avec la question de la décision, c'est un peu des atermoiements, des hésitations, un pas en avant, un pas en arrière, et tout ça évidemment est très troublant pour ses partenaires. Et la question de la décision que vous avez évoquée tous les deux me paraît fondamentale. J'y ajouterai une autre chose, c'est que ça va prendre du temps. C'est-à-dire que cette coalition, en France, on a découvert récemment qu'il pouvait être très très long et très difficile de faire un gouvernement. Mais là, en Allemagne, une fois que les élections auront eu lieu, on va attendre très longtemps. Donc tout ça, ça va avoir un impact sur la possibilité de l'Allemagne d'agir en Europe. Et a fortiori, dans un contexte de grande tension, on voit que déjà ce profil des négociations potentielles entre l'Ukraine et la Russie, dont l'Europe semble exclue, il y a ces problèmes économiques que j'ai soulignés. Donc c'est vrai qu'on a forcément un peu d'appréhension en imaginant qu'il va falloir plusieurs mois pour mettre au point une coalition. Alors, la Pologne, c'est vrai que, au contraire de la France, l'Allemagne a beaucoup de voisins. Mmh. Hein, Napoléon disait qu'un État fait la politique de sa géographie, je dirais qu'il fait aussi la politique de son histoire, et dans le cas de l'Allemagne, c'est très important. Ce qu'on peut constater, en tout cas, c'est que à la fois, en raison de la présence de Donald Tusk à la tête du gouvernement polonais, il y a une détente qui s'est produite. Il ne faut pas oublier que récemment, le PiS, donc, qui était le parti conservateur qui a précédé celui qui est actuellement au pouvoir en Pologne, a réclamé des réparations aux Allemands. Bon, Donald Tusk a dit qu'il était plus question d'en parler. Et là, Friedrich Merz a même annoncé qu'il allait proposer un traité d'amitié avec la Pologne. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qui, je pense, devrait consolider la ligne orientale de l'Europe, de l'Union européenne. Et ça permettrait aussi de revivifier le triangle de Weimar. Et c'est vrai que souvent les Polonais ont l'impression d'être un peu le parent pauvre de ce triangle dans lequel ils étaient face à l'Allemagne et à la France. Et là, il y a la véritable volonté d'associer la Pologne, qui est quand même un grand pays avec en plus un déplacement de l'Europe vers l'Est, très clairement. Le centre de gravité s'est déplacé vers l'Est. Un grand pays avec surtout une grande armée et une grande défense, hein, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, même si actuellement il y a des efforts qui sont faits, d'ailleurs tout à fait historiques, du côté de l'Allemagne pour essayer de combler le retard qui a été pris toutes ces dernières années.
Hans Stark, alors il y a aussi un autre pays dont on n'a pas parlé, c'est l'Ukraine. Monsieur Merz est décrit comme un va-t-en-guerre. On peut rappeler que l'Allemagne est le deuxième soutien à Kiev derrière les États-Unis. Là, les choses sont en train de bouger. Donald Trump et Vladimir Poutine se parlent. Cette question de l'Ukraine qui pourrait royalement et tristement totalement échapper aux Européens et à l'Allemagne.
Alors, c'est le PSV et l'AFD qui décrivent M. Merz comme un va-t-en-guerre. Donc, c'est l'extrême droite et l'extrême gauche qui disent que ce n'est pas un va-t-en-guerre, M. Merz, pas du tout. Pas plus que les autres dirigeants de la CDU avant lui ou du SPD. La seule chose qui le distingue, peut-être de Scholz en particulier, c'est la divergence au sujet de la livraison des Taurus, donc des missiles de croisière à plus longue portée que les Ukrainiens avaient réclamé à corps et à cri. Juste titre, donc l'équivalent des Césars, et que Scholz a refusé, et Merz n'est pas d'accord avec lui, Merz était favorable à cette livraison. Alors, pour revenir à cette question, est-ce que les Européens seront à la table des négociations entre Trump et Poutine? Bien sûr que non. Ce sera fait au-dessus de nos têtes. Par contre, une fois qu'un cessez-le-feu s'installe, il faudra le surveiller. Et là, les Américains ont clairement dit que ce sera sans jeu et que ça ne peut être fait qu'avec les Européens. Et donc, la présence de la Bundeswehr est absolument indispensable. La seule chose, c'est que pour des raisons électorales tout à fait compréhensibles, ni le SPD ni la CDU ne veulent évoquer cette question maintenant. Mais elle va se poser. Il faut tout simplement attendre le 23 février. On ne peut pas imaginer une présence européenne. Enfin, on peut l'imaginer, mais ça sera terrible. Normalement, une présence européenne, que ce soit sous les drapeaux de l'Union européenne ou d'une coalition ad hoc, elle doit inclure des contingents allemands. Alors, on ne sait pas où est-ce qu'on va les prendre, parce que la Bundeswehr n'en a pas. Ils sont même en difficulté déjà de monter une brigade qu'ils avaient promis à la Lituanie, qui doit être normalement opérationnelle pour 2027. Donc, déjà ça, c'est un exploit. Mais il n'en demeure pas moins qu'une présence européenne militaire en Ukraine sans l'Allemagne, on ne peut pas l'envisager.
Claire de Mesmer, un commentaire à faire. Après ça, j'aimerais qu'on parle des États-Unis et cette crainte qui prévaut quant à l'éventualité que l'Allemagne fasse des deals avec Donald Trump, ce qui ira bien sûr à l'encontre d'une Europe plus robuste et plus unie. Claire de Mesmer.
La question de deal possible des différents États membres de l'Union européenne avec les États-Unis, elle se pose pour tout le monde et pas seulement pour l'Allemagne. J'espère que les Européens resteront unis. La question du commerce international va évidemment se poser. Là, entre Français et Allemands, il y a des positions qui sont très différentes sur le libre-échange. L'Allemagne a soutenu fortement la signature du traité avec le Mercosur. La France est dans la position inverse. Voilà, ce genre de questions vont se poser. Il y a un point sur lequel il me paraît aussi important de revenir très très rapidement, c'est la question du frein à la dette, du frein à l'endettement, la Schuldenbremse, qui est ancrée dans la loi fondamentale, qui est la constitution allemande, et qui limite fortement les marges de manœuvre budgétaires de l'Allemagne. Or, l'Allemagne a besoin d'argent, l'Allemagne a besoin d'investissement, justement dans les questions de défense, mais aussi dans les questions d'infrastructure, dans l'éducation, dans la transition énergétique, sur toute une série de sujets.
Dans le numérique ?
Dans le numérique également, bien sûr. Et ça, cette question de que faire du frein à la dette ? Certains partis veulent le réformer, d'autres y tiennent, d'autres veulent au contraire le supprimer. Bon, là, je pense à l'extrême gauche. Cette question est évidemment centrale et elle a un impact, ou elle aura un impact sur, en fait, l'ensemble des décisions politiques du pays, donc aussi aura un impact sur le cours européen et sur notre réalité.
Sabine Janssen.
Oui, un mot pour dire que c'est vrai que le focus a été beaucoup mis sur les questions d'immigration, notamment lors du dernier débat télévisé qu'il y a eu entre les deux candidats, Olaf Scholz et Merz, mais en réalité, du côté de Friedrich Merz, c'est quand même, l'économie est quand même une question majeure. Hein. Il avait écrit un livre en 2008 qui s'appelait « Oser plus de capitalisme ». Donc, il est vraiment parfaitement libéral, en faveur effectivement du traité de Mercosur, qui sera aussi un peu une bouffée d'oxygène pour l'économie allemande. Mais la CDU a publié un agenda, je crois, 2030, avec toute une série de dispositions économiques, de réformes fiscales, pour essayer de relancer la machine économique. Donc ça va être une question majeure, effectivement. Et est-ce que ça va conduire l'Allemagne à faire cavalier seul? Je n'en suis pas certaine, mais comme le disait Claire, en fait, ça concerne tous les pays, à commencer par l'Italie, dont on a vu que déjà, elle essayait de placer en quelque sorte son avantage du côté des États-Unis.
Merci Sabine Janssen. En tout cas, on l'a donc bien compris, tout va dépendre des élections du 23 février et de la coalition qui sans doute devra se faire de façon à permettre à la CDU de gouverner confortablement. Merci à tous. Merci Sabine Janssen. Je rappelle que vous êtes professeure au CNAM, Centre National des Arts et Métiers, co-rédactrice en chef de la revue Questions Internationales. Claire de Mesmet, chercheuse associée au Centre Marc Bloch à Berlin et professeure à la chaire Alfred Grosser de Sciences Po, et Hans Stark qui était avec nous par téléphone, professeur de civilisation allemande contemporaine à Sorbonne Université et conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Mathias Golchani à la réalisation et Cécile Lavolo. Vous êtes bien sur RFI.